Le grand débat des législatives avec les candidats de la première circonscription de l'Aisne.
Après M. Ferrand, M. Jean-Louis Pernel.
Je suis Jean-Louis Pernel, aujourd'hui retraité de la Poste. Et avant d'être postier, j'ai travaillé quelques années dans le bâtiment, puis dans la métallurgie, et j'ai connu quelques périodes de chômage. J'appartiens donc au monde du travail, comme ma suppléante Claire Ledoux, qui est en ce moment d'ailleurs à son travail, et comme toutes celles et ceux qui sont les candidats de lutte ouvrière dans toutes les circonscriptions. Alors, ces candidatures, elles vont permettre à toutes celles et ceux qui ont voté pour Nathalie Arthaud présidentielle de renouveler leur vote, et y compris à ceux qui étaient séduits par nos idées et qui ont cédé à une espèce de pression pour le vote utile. C'est là qu'ils pourront faire un vote, un soi-disant vote utile d'ailleurs, ils pourront faire là véritablement un vote utile pour voter pour le camp des travailleurs. Ils pourront aussi affirmer que les élections n'ont pour but de désigner que ceux qui vont gérer les affaires au mieux des intérêts des capitalistes. Et ils diront aussi leur fierté d'appartenir à une classe sociale qui produit toutes les richesses dans la société et leur confiance dans la capacité des travailleurs à mener les luttes nécessaires pour les revendications du monde du travail.
Merci, M. Pernel. La parole est donnée à M. Pernel.
Oui, tout d'abord, pour commencer, je voudrais exprimer toute ma solidarité avec les gens qui se sont mis en grève à la MAT, à Montcornet, pour exiger de leur entreprise qu'elle leur donne des garanties pour leur avenir. C'est assez exemplaire, ce type de cas, y compris dans l'Aisne. Des entreprises qui appartiennent à des grands groupes, qui font des bénéfices, et qui, pour des raisons de productivité, pour faire encore plus d'argent, pour donner encore plus d'argent à leurs actionnaires, décident de fermer en mettant des familles entières au chômage. Donc les travailleurs, on leur avait promis un repreneur qui vient de faire défaut, et ils exigent de Trève, qui est un grand groupe, qu'ils leur garantissent leur avenir, et que, y compris si un repreneur, même si le repreneur ferme l'année d'après, que ce soit Trève qui assure les problèmes financiers qu'ils se poseront à eux. J'ai été les voir hier, et je leur ai dit que j'allais venir les voir en tant que militant ouvrier, qui était solidaire de leur combat, et pas en venant faire des promesses électorales. Parce que justement, leur lutte, de ce point de vue-là, c'est comme ça que les travailleurs peuvent se défendre. Tous ceux qui sont en train de dire « Votez pour moi et je défendrai votre entreprise », c'est les bobards. Et la politique qu'on a dans l'Aisne, la situation qu'on a dans l'Aisne, est là pour le prouver. Alors ce qui est frappant, moi j'entends ici des gens qui parlent de belles entreprises, etc., et qui veulent protéger à la fois les patrons et les ouvriers. Et bien ça, c'est du baratin. C'est soit les ouvriers, soit les patrons. Et aujourd'hui, il faut que les travailleurs aient un programme de défense du monde du travail. On voit encore une fois Nexans, qui n'est pas dans la circonscription, un des trusts les plus riches du monde. Et ils ont fermé une entreprise. Bon, quel rapport entre la richesse des trusts et le bien-être des travailleurs? Alors, aujourd'hui, les entreprises comme Krone, par exemple, qui font des bénéfices, les effectifs de l'usine ont fondu. Il n'y a pas eu de plan licenciement, on n'a jamais remplacé les départs. Et aujourd'hui, les intérimaires se sont fait virer. Et à Noireau, c'est la même chose, ce sont les intérimaires qui servent de variable d'ajustement. Alors face à cette situation dans laquelle en plus l'État se désengage des services publics, et effectivement, il faut que les travailleurs se donnent un programme. Et ce programme, c'est d'interdire les licenciements et de répartir le travail entre tous et sans diminution de salaire. Et il faudrait des augmentations de salaire de 300 euros et un minimum de 1 800 euros par mois net. Parce que là, Macron décide de s'attaquer, y compris aux retraites, qui ont 1 200 euros. Qui peut prétendre, parmi tous ces gens qui prennent ces décisions, qu'il n'est pas utopique de penser qu'on peut vivre correctement, sans serrer la ceinture sans arrêt, avec 1 200 euros? Alors, oui, il faut des augmentations, et puis oui, il faudrait que les travailleurs puissent regarder dans les comptes des entreprises, parce qu'on verrait alors qu'il y a bien assez d'argent pour financer ces mesures. Alors, c'est un programme de revendication pour les luttes que les travailleurs pourraient imposer et au gouvernement et au patron.
Ouais. Merci, Christophe Cour. Je donne la parole maintenant à M. Jean-Louis Pernel.
Oui, cela fait des années que les gouvernements qui succèdent se désengagent des services publics pour faire des économies et les distribuent en cadeau aux entreprises. Et cette politique, elle se fait sentir en priorité pour les classes populaires, que celles-ci habitent en ville ou dans le petit village qui se transforme en désert. Et c'est pour ça que j'irai un petit peu contre, d'ailleurs, ce que disent un certain nombre de candidats ici, en opposant la ruralité avec ce qui se passerait dans les grandes villes. Parce que s'il y a une spécificité dans l'Aisne, c'est effectivement qu'il y a des ouvriers en très grand nombre et que donc, effectivement, notre région paye le prix fort parce que c'est les classes populaires qui payent le prix fort. Mais ce n'est pas une question de région. Dans les régions riches, y compris dans les petits villages, eh ben, on est aux petits soins avec les riches. Donc effectivement, ici, dans les petits villages, ce sont des travailleurs, ce sont des chômeurs, ce sont des retraités qui essaient de survivre avec des pensions minables. Et voilà, ce qu'on fait, ce qu'ils ont, c'est des écoles, des bureaux de poste qui ferment, et des services comme la sécurité sociale, les caisses de retraite, la perception. Bon, on ne va pas faire une liste, etc. Et ça devient un parcours du combattant, ne serait-ce que pour trouver un distributeur à billets ou une boulangerie ouverte. Pour la santé, c'est la même chose. Il y a de moins en moins de médecins, moins en moins de spécialistes. Et dans tous les gouvernements qui pleurent et qui nous disent au moment des élections, au moment des candidats, qu'effectivement c'est un problème, ces gens-là, quand vous êtes au gouvernement, il n'y en a pas un qui a eu le courage, par exemple, d'imposer aux jeunes médecins de s'installer là où il y a des besoins, comme ça se fait pour n'importe quel fonctionnaire, à l'EDF, à la Poste, quand il y avait encore des fonctionnaires, ou dans l'enseignement. Alors, cet abandon, il résulte effectivement de la politique des gouvernements des collectivités territoriales qui détournent par millions d'euros en cadeaux au patronat, soi-disant pour favoriser l'emploi, alors que cet argent finit dans les poches des actionnaires. Cet argent, il faudrait le consacrer au développement des services publics, à la ville comme à la campagne, parce qu'il y a des besoins, il y en a, dans les hôpitaux, à la poste, pour les routes, etc. Oui, alors c'est une question, monsieur Philippot, à propos de... On est tous d'accord ici, apparemment, pour faire le constat de la dégradation des services publics. Donc tout le monde a dit ça. Voilà. Ceci dit, et à droite et à gauche, tous les députés ont voté des budgets nationaux qui, justement, prévoyaient ces centaines de millions de suppressions d'emplois. Et là, M. Macron s'apprête à faire la même chose. Alors, il y a seulement le Front National qui, aujourd'hui, se fait le défenseur des fonctionnaires. Pour moi, c'est une bonne nouvelle, parce que, quand j'étais postier, il était clair pour tout le monde que le Front National était contre les services publics. Alors, je ne pense pas que le Front National ait changé. Je pense simplement que le Front National a appris à compter et qu'ils savent maintenant ce qu'il faut dire pour essayer de faire des voix. Donc, là, tout à l'heure, vous avez dit que vous étiez effectivement contre la désertification des médicales. Et quand j'ai dit, par exemple, qu'il faudrait imposer aux jeunes médecins de s'installer là où il y en a besoin, par contre, je n'ai pas eu d'écho du fait que savoir qui était d'accord pour ça. Alors, est-ce simplement parce que vous n'avez pas encore calculé le nombre de voix que ça allait vous faire gagner et le nombre de voix que ça allait vous faire perdre?
Monsieur Philippot. Alors, il faudrait apprendre à Monsieur Bernel que les médecins en France, pour la plupart, sont des médecins libéraux et ne sont pas des fonctionnaires. Donc, quand vous prenez l'exemple des postiers et des enseignants, on est dans une situation bien différente. On ne peut pas imposer un médecin libéral d'aller s'imposer dans un territoire ou un autre. En revanche, on peut envisager des incitations. Et effectivement, dans notre programme, nous envisageons deux types d'incitations. D'abord, renforcer les incitations fiscales pour l'installation des jeunes médecins dans les zones rurales. Et deuxièmement, obliger, là pour le coup on peut le faire parce que c'est encadré par l'université, obliger les internes en médecine à faire un stage en zone rurale pendant leur intervalle.
Oui, alors j'ai parlé des fonctionnaires, c'était un exemple, mais je pourrais aussi parler des millions de travailleurs à qui on explique qu'il faut qu'ils suivent leur entreprise là où elle est. Voilà, il y a même, y compris les entreprises, quand elles ferment, elles osent proposer des emplois en Tunisie, en Roumanie, en Tchécoslovaquie, et les gens qui font partie de votre parti, ou même à droite comme à gauche, ils trouvent ça tout à fait normal que la législation, effectivement, oblige les travailleurs soit à suivre les entreprises, soit à se retrouver au chômage. Alors je pense qu'effectivement, dans la loi Macron, on pourrait peut-être faire des pressions sur les médecins, plutôt que de les faire sur les travailleurs, qui ont déjà la pression économique du fait que leur salaire dépend du bon pouvoir des patrons.
La parole à Jean-Luc Perniel pour ses 2 minutes de conclusion.
Pour cette élection où tous les grands partis s'agitent, les uns disent qu'il faut donner à Macron une majorité pour qu'il puisse mener sa politique, et les autres disent qu'il faut voter pour eux pour faire un rempart au gouvernement Macron et qu'ils seront les mieux placés pour être une opposition au Parlement. Et tous essaient de nous faire croire que notre sort travailleur est dans les urnes. Ce qui se prépare en ce moment, c'est que Macron a décidé de tenir ses promesses. Les promesses qu'il a faites pour faire passer les lois que le MEDEF lui impose. Il va donc s'en prendre aux retraites, il va s'en prendre au code du travail, et il va rendre légal tout ce que bien des patrons imposent déjà aujourd'hui en toute illégalité. Et pendant ce temps-là, le grand patronat poursuit les fermetures d'entreprises et les licenciements. Il mène sa guerre de classe contre les travailleurs en aggravant les cadences et en bloquant les salaires. Alors oui, face à ça, les travailleurs doivent affirmer que ce n'est pas au Parlement que les choses se passent, d'autant que Macron a déjà annoncé qu'il passerait en force avec le 49-3. Alors je souhaite la réussite des mobilisations du monde du travail contre la loi Macron. Pour nous, travailleurs et chômeurs, l'avenir dépend de nos luttes, de notre organisation, de notre conscience collective. Et c'est d'autant plus important de le dire que le Front National a gagné en influence et détourne les travailleurs de leur véritable combat, en désignant comme bouc émissaire l'Europe, les immigrés, les migrants, qui sont nos frères de classe. En occultant les responsabilités qu'a le grand patronat, le Front National défend, comme Macron, le pouvoir des capitalistes. Voter pour lutte ouvrière, ce sera affirmer une position ouvrière contre le gouvernement et contre le patronat qui tire les ficelles. Et chacun pourra mesurer, dans son quartier, dans sa ville, qu'il appartient à un courant très minoritaire, certes, mais qui existe à l'échelle du pays et qui est fier de ses idées. Un courant de femmes et d'hommes bien décidés à ne pas se laisser faire. Et dans cette période de recul, où beaucoup pensent se sentir isolés, c'est précieux. Et une fois les élections terminées, parce qu'après les élections, nous, on continue à faire de la politique, il demeurera la nécessité pour les travailleurs de se donner un parti qui représente les intérêts de classe. Un parti qui défende les intérêts des travailleurs dans le cadre du capitalisme avec des femmes et des hommes qui agissent au quotidien dans les entreprises et dans les quartiers.
Merci.
Et aussi un parti qui œuvre pour renverser cette société. Alors, ce sera un vote de conscience ouvrière, de voter lutte ouvrière.